Nous accueillons Nicoletta Bianchi, qui est archéologue, préhistorienne, qui propose des visites dans la Vallée des Merveilles, qui est italienne, je précise, parce que ça a une importance chez nous, cette notion de reliance, de résonance entre l'Italie et cette partie de la vallée, qui a fait une thèse, tu peux en parler, parce que ça a du sens complètement, comme tu l'as évoqué, sur la chronologie des gravures et comment l'homme est arrivé, l'occupation de l'homme.
Alors voilà, oui, bonjour à tous et merci beaucoup de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir en fait de parler de la Vallée des Merveilles, de son histoire. Et voilà, ma thèse avait pour sujet en fait la chronologie. Quand on le dit comme ça, ça ne fait pas forcément rêver. C'est vrai que c'est assez carré comme travail. Mais c'est un travail qui m'a paru essentiel au moment de mon arrivée ici. Parce que c'est vrai que c'est difficile d'interpréter et de comprendre en fait ce que ces hommes de la préhistoire ont voulu nous dire avec ces messages gravés, si on ne sait pas qui ils sont, en fait, si on ne connaît pas les groupes culturels auxquels ils appartiennent, d'où ils viennent et à quel moment exactement ils ont fait les gravures. Parce que c'est vrai qu'on a tendance et ça, enfin, c'est une vision qui a duré presque 50 ans, en fait, de voir ces gravures comme un cycle unique, synchrone, où tout avait été fait au même temps par des hommes qui avaient les mêmes modes de vie et les mêmes croyances, alors qu'en réalité, les faits archéologiques sur lesquels on s'est penché, notamment à l'occasion de ma thèse et d'autres thèses qui se sont faites en parallèle par d'autres collègues, en fait, c'était d'aller chercher les faits archéologiques et se baser, repartir de là pour reconstruire, en fait, cette occupation qui est une occupation précoce de la montagne et aussi de la vallée, mais notamment de la montagne, parce que ce n'était pas rien pour un homme du néolithique, en fait, d'atteindre les 2000 mètres, que ça soit avant... on cherche de matières premières ou après avec les premiers groupes en fait d'animaux domestiques et c'était un véritable challenge en fait, c'était d'adaptation à un milieu qui est pas forcément facile pour un homme qui sort à peine en fait de son mode de vie nomade et qui doit s'adapter qui va coloniser, en fait, si vous voulez, hein, entre guillemets, des milieux qui sont nouveaux. Et j'aime toujours dire, en fait, donner cette image, parce que quand on pense que les gravures de la Vallée des Merveilles ont plus ou moins le même âge, on va dire de manière un peu grossière, que les pyramides en Égypte, on s'est dit, ah, mais regardez, qu'est-ce qu'on faisait en Égypte, etc. Alors qu'ici, mais en fait... l'adaptation à ce milieu en fait d'altitude etc est aussi grandiose de la réalisation d'une pyramide en Égypte. Il y a derrière la nécessité quand même d'un niveau de technique et de connaissances aussi qui est aussi développé important qui est celui des architectes en fait des pyramides en Égypte.
Et alors, est-ce que tu pourrais revenir justement sur cette datation et en même temps sur nous expliquer un peu plus en détail concrètement, quel type de technologie il fallait justement pour être capable de maîtriser la montagne?
Oui, alors on va dire que la Vallée des Merveilles a été, on a des traces de fréquentation déjà à partir du Mésolithique. Ça veut dire une phase de transition entre le Paléolithique, le moment où l'homme est chasseur-cueilleur et nomade, et le néolithique, le moment où l'homme se sédentarise. On n'a pas de traces plus anciennes aussi parce que ça devient un peu compliqué à cause des périodes interglaciaires en fait, et des glaciations, de garder des traces plus anciennes en fait, du paléolithique, et donc au moment où on est encore dans l'évolution de l'homme. Et on ne sait pas. On ne peut pas exclure que l'homme du paléolithique, on sait aujourd'hui, avec des recherches plus poussées dans le milieu de la montagne, qui est quand même un domaine de recherche assez nouveau qui est vraiment quelque chose de, qui se développe dans les dernières années, qu'il y a des milieux montagnards qui ont été investis aussi par l'homme nomade, par l'homme du paléolithique. Mais si on est sûr qu'à partir de la transition avec, juste avant en fait de devenir agriculteur, paysan, berger, l'homme est déjà venu à la Vallée des Merveilles, sans doute parce que on quête de matières premières, comme je disais, pour des activités de chasse qui évidemment pouvaient être très développées dans ce milieu.
Quel type de matières premières ?
Alors les matières premières que, il faut venir à une question centrale aussi sur notre territoire, qui est celle de Carrefour. En fait, au néolithique, par exemple, la matière première phare, celle qui est la plus connue et qui s'est vraiment développée partout en Europe, du Portugal à la Roumanie au moins, c'est la pierre verte. Et la pierre verte, jadéite, serpentinite, éclogite, c'est notamment celle qui est connue partout en Europe, celle du Mont Viso, qui est une montagne juste derrière, au Piémont, derrière nous. Donc on sait que sans doute dans la diffusion, par exemple, de ce type de matières premières, il y a un passage qui se fait de manière obligatoirement, en fait, ici, par la Vallée de la Roya et par la Vallée des Merveilles aussi. Donc principalement, on a la pierre verte, après on a du silex, et c'est un silex vraiment d'origine, par exemple, qui vient du Vaucluse, qui se diffuse partout sur la côte du Grand Provençal, qui arrive ici, qui passe au Piémont. Le quartz, par exemple, le cristal de roche qui est beaucoup utilisé et taillé au Piémont, qui passe sur la côte. Enfin, il y a tout un réseau bien connu et bien identifié aujourd'hui sur ce type d'échange, dont on peut voir quand même un rôle, si ce n'est pas vraiment le centre, évidemment, de tout ce type d'échange, c'est l'un des centres, en fait, l'un des zones de passage pour l'échange de ces matières premières qui ont sans doute une valeur technologique, mais aussi symbolique à la période néolithique. Donc ça, c'est principalement. Après, on a aussi des traces, en fait, d'extraction de matières premières, comme la chlorite, par exemple, directement sur place, avec la fabrication, par exemple, de parures, directement sur les abris sous roche de la Vallée des Merveilles. Donc vraiment toute une vie, les matières premières parlent en fait de la vie de l'homme à ces époques à la Vallée des Merveilles.
Pardon.
En ce sens, tu parlais de symbolique, et en quoi ça a de la résonance de manière singulière pour toi de faire ce que tu fais en ces lieux?
Moi, j'ai toujours pensé qu'en fait, la connaissance de nos origines, de là où on vient, est fondamentale, parce que toute connaissance culturelle, en fait, une société sans culture ne vit plus, elle meurt. Donc, d'autant plus, la quête en fait, de nos origines me paraît quelque chose d'essentiel pour pouvoir continuer à imaginer un futur, en fait, tout simplement pour l'homme et pour les sociétés, et de garder donc des valeurs qui, des fois, sont plus ancestrales de ce qu'on pourrait imaginer. Après, ce que moi, vraiment, j'aime, qui donne du sens, en fait, au choix d'avoir un terrain de recherche ici, dans la Vallée de la Roya, c'est que ce qu'on n'aime pas, en fait, parler, on n'aimait pas classiquement dans l'interprétation de ces gravures, par exemple, parler des bergers, parce qu'on était dans un imaginaire où un berger, c'est quelqu'un qui s'ennuie et qui donc va graver quelques dessins pour faire passer le temps. Alors qu'un berger, pour moi, n'est absolument une figure dépourvue de spiritualité, de questionnement, il y a autre chose, et notamment très forte, au moment où on est à l'émergence du pastoralisme et qu'on se pose beaucoup de questions pour que ça puisse marcher, fonctionner comme on le souhaite, parce que ça en dépend évidemment la survie de tout notre groupe et de notre communauté aussi. Donc, au moment où l'homme préhistorique vient ici, à la Vallée des Merveilles, vers 4000 ans avant Jésus-Christ, 4500 ans avant Jésus-Christ. On est au moment où la transhumance, on l'appelle estive parce que c'est moins complexe qu'une transhumance, comment on peut, un système économique, comment on peut le voir aujourd'hui. Mais on est dans une période, en fait, d'optimum climatique. C'est le même questionnement, en fait, qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc l'homme se dit, sur la côte, par exemple, j'ai du mal à nourrir mes bêtes pendant l'été. Il fait chaud, il y a un réchauffement climatique qui est un peu pareil à celui d'aujourd'hui au niveau de la température. Et donc, il s'aventure, en fait, à la montagne. Et c'est un laboratoire. Et moi, je trouve que, en fait, cette envie de l'homme d'expérimenter, en fait, de rendre son mode de vie viable et aussi on synergie avec la nature, c'est un peu aussi ce qui se passe aujourd'hui, parce que la vallée de la Roya, c'est un énorme laboratoire, il y a beaucoup d'effervescence et il y a beaucoup d'idées et de tests, de zones tests aussi pour donner du sens et essayer de créer et d'aller vers un monde plus viable par rapport à voilà, là où on va actuellement globalement, dans le mur, comme Julie a dit justement tout à l'heure. Voilà.
Est-ce que tu pourrais revenir justement sur les adaptations technologiques nécessaires pour pouvoir avoir accès à la montagne ? Tu disais que c'était qu'il fallait envisager de véritables prouesses technologiques pour pouvoir maîtriser ce milieu à l'époque. Donc est-ce que tu pourrais détailler dans ce sens-là ?
Alors pour détailler, c'est juste imaginer que alors peut-être que par rapport à la construction, on revient à la question de la pyramide. Bien sûr, technologiquement. Ça, c'est moins grandiose, moins spectaculaire, mais la survie, en fait, d'un petit troupeau à la montagne, à 2000 mètres, là où, en fait, quelque part, le milieu peut sembler aussi hostile, parce que n'oublions pas l'orage, quand même, la foudre, les problèmes de température, les problèmes de nourriture, etc. Il faut vraiment une organisation et une maîtrise, en fait, de ces systèmes d'estive, qui est mis en place, parce que c'est pas rien. Et si le troupeau, par exemple, meurt, et on revient sans troupeau, ça va être compliqué pour tout le groupe, enfin, qui attend quand même voilà, que le berger revienne. Après, je trouve que tout ce qui est au niveau, tout ce qui est aussi technologique à cette période-là a mis les bases, a permis en fait l'évolution, une évolution très rapide à partir du néolithique, parce qu'on a quand même la fabrication d'outils en pierre taillée, évidemment, qui peut atteindre quand même un niveau technique assez extraordinaire, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans le moment où on a ces productions qu'on appelle production de lames en silex remarquables, des grandes lames, voilà, taillées avec beaucoup de savoir, avec un savoir-faire qu'il faut quand même acquérir. Et à partir de là, on a aussi la transition vers la découverte des techniques métallurgiques, qui sont un grand moment, un grand bouleversement, en fait, bouleversement positif, transformation et acquisition de savoir-faire positif qui met les bases, en fait. C'est de là, avec la maîtrise de la métallurgie aussi, que les premiers proto-villes naissent, où grâce à l'acquisition de ces savoir-faire, en fait, on arrive à mieux vivre aussi, et qu'il y a une certaine aussi explosion démographique, et du coup, les petits villages deviennent petit à petit des centres plus importants, et que les premières organisations proto-urbaines, en fait, naissent, et on va vers ce qu'on, de manière relativement rapide, ce qu'on peut connaître avec, après, les civilisations grecques, romaines, et, etc. Donc, c'est quand même une maîtrise qui est pas négligeable, à mon sens. Et puis, on est dans la transmission, on est quand même dans des savoir-faire qui sont précieux, et on met en place, en fait, des chaînes aussi de transmission, qui est de la transmission culturelle, en fait. Qui sont, à mon sens, vraiment précieux dans le développement, en fait, de ces sociétés néolithiques.
Tu peux en parler davantage, justement, de cette transmission, de ces transmissions ?
Eh bah, bien, je suis peut-être non plus la personne la mieux placée à vous donner peut-être tous les détails de la question, mais c'est vrai qu'on devine grâce aux fouilles archéologiques, par exemple, de l'organisation en fait d'une société où chacun a son rôle précis et où, par exemple, le métallurgiste devient une figure au sein de la communauté qui a une importance particulière et donc ces savoir-faire, ils doivent être forcément transmis pour ne pas les perdre. Donc cette personne-là, elle va après en choisir une autre pour que le savoir ne se perde jamais. Parce que vous imaginez le feu, par exemple, à la préhistoire. La découverte du feu, qui est un moment clé quand même de la survie de l'espèce humaine, c'est fait par l'observation, par la foudre qui va incendier un arbre, etc. Et au départ, l'homme a vraiment soigné le feu pour qu'il ne s'éteigne jamais. Et puis il a compris, en observant des étincelles et des choses qui se faisaient, qu'il pouvait l'allumer lui-même. Mais c'était tellement fragile, en fait, cette manière de cette connaissance qu'est la transmission, vous imaginez. Enfin, c'était primordial, parce que si on perdait, par exemple, la maîtrise du feu, on perdait la chose plus importante qu'on n'ait plus jamais à avoir à ce moment précis, quoi. Donc, toutes les connaissances techniques, se gardent précieusement à la période de la préhistoire pour qu'elles ne soient pas perdues. Chose que peut-être aujourd'hui, on a tendance à... On n'a pas ce respect, je trouve, de la tradition, de métier. On perd plein de choses. On les voit, se perdre devant nos yeux. Et j'ai l'impression que des fois, on n'investit pas suffisamment d'énergie et de moyens, surtout, pour pouvoir les sauvegarder. Alors que si on ne sait plus de là où on vient, c'est difficile d'imaginer où on va.
Est-ce qu'il y avait est-ce qu'il y a des implantations ou des lieux où les gens se sont installés de manière durable, justement à ces époques, dans la vallée, qu'on peut déjà identifier de manière assez claire?
Oui, il y a plusieurs
Quels
sites.
Quels sont-ils?
Ben, justement, c'est un peu ce que le travail qu'on est en train de faire actuellement. Surtout parce que aussi suite à la tempête Alex, il y a eu un nombre considérable de sites archéologiques qui auraient fait surface. Et donc, il faut quand même vite les répertorier et les étudier. Donc, on a évidemment une évolution de l'habitat dans ces premières époques, en fait, où l'homme préhistorique monte dans les hauteurs, on a des habitats en grotte, évidemment, qui sont dans des grottes véritables, on va dire, dans la vallée de la Roya, hein, qui est donc l'habitat de la moyenne saison, on va dire. Et après, sur la vallée des Merveilles même, on a ce qu'on appelle des abris sous blocs, ou des abris sous roches, c'est souvent fait par des blocs erratiques qui se sont positionnés suite au glacier qui s'est retiré, en fait, et qui sont restés à former un abri. Et l'homme préhistorique les a investis et habités de manière saisonnière. Après, comme je disais, il y a beaucoup d'habitats en grotte qu'on connaît aujourd'hui pour la période qui comprend toute la préhistoire et la protohistoire, hein, parce que du néolithique, on en a jusqu'à l'âge du fer, hein, donc aux portes de la préhistoire. Et après, sans doute, on a individué au moins un grand site qui serait plutôt un site à cabane en plein air et donc une implantation plus importante que dès l'âge du fer arrive jusqu'à l'époque romaine.
Et il se trouve à quel endroit?
Ah, mais ça, on peut
ah,
pas
c'est
le dire.
Ah, c'est d'accord, ok.
Il y a toujours le problème du pillage des sites archéologiques. C'est arrivé plusieurs fois, même dans la vallée. Alors, on essaye d'être discret. On se le dit entre nous, mais peut-être pas à la radio.
Je reviens sur la notion symbolique. Est-ce que tu pourrais aborder davantage cet aspect-là? Je reviens sur... Il me paraît qu'il y a une partie importante pour toi. Si tu peux aller dans cette direction.
Oui, oui, surtout parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellée dès le départ de mon arrivée ici, qui s'est faite pour moi aussi complètement par hasard, parce que je venais de soutenir mon Master 2 et j'avais littéralement la tête dans la valise. Je préparais des valises pour partir en Espagne. J'aurais dû partir 2 jours après. Et là, il y a ma directrice de master, en fait, qui m'appelle et qui me dit il y a en fait une bourse qui n'a pas pu être passée par le concours, en fait, mais c'est dommage de la perdre. Les autorisations n'étaient pas, les tampons, les milliers de tampons et de papiers n'étaient pas arrivés à temps. Et donc, on va l'attribuer, nous, sans candidature. Et me dit, elle est pour toi. Et là, c'est le bouleversement, en fait. C'était compliqué, j'hésitais. Et puis voilà, il y avait ce côté symbolique, en fait. C'était de la rupestre. C'était un domaine qui était quand même complètement nouveau, aussi pour moi. J'ai décidé d'y aller. Et quand j'arrive ici, en fait, je me dis, waouh, c'est quoi cet endroit? Parce qu'en plus, le laboratoire était à Nice, donc j'avais passé tout l'hiver à Nice. Et puis, je me retrouve l'été à monter ici. J'ai dit, waouh, est-ce qu'il y a des gens qui vivent vraiment ici, quoi? Comme ils font. Et après, de fil en aiguille, en fait, c'est devenu une évidence. Et j'ai décidé de m'installer ici. Et j'ai toujours perçu, en fait, quand Anna Maria parlait d'énergie et de que la Vallée des Merveilles aussi avait une énergie très particulière et que je voyais, on avait pendant des années, en fait, un chantier de relevé de gravures avec des étudiants. Et c'était particulier parce que, en fait, les gens arrivaient et soit ils étaient fascinés par le site, et ils étaient piqués vraiment par cette mouche bégo, comme on disait à l'époque, et ils continuaient à venir, à revenir année sur année, même quand ils avaient complètement changé de domaine, où ils avaient abandonné les études en archéologie, faisaient autre chose, enfin, ils continuaient vraiment. Et d'autres qui arrivaient, ils passaient la nuit, et en fait, le lendemain matin, à 6 heures, tu les trouvais avec le sac à dos en disant « Moi, je ne peux pas rester ici, je m'en vais. » Et j'ai vécu vraiment, je l'ai vraiment senti très fort aussi. Et à un moment donné, j'étais happée, en fait, par ces symboles qu'on avait du mal à comprendre, sur lesquels on s'est penché pendant des heures et des heures et des années. On a beaucoup travaillé. Je pense qu'au final... Enfin, moi, le message qu'ils m'ont passé, c'est vraiment celui de dire, voilà, ce territoire, c'est un territoire de pastoralisme, d'hommes qui vivaient avec la nature en symbiose, avec toute la difficulté que ça pouvait représenter aussi vivre comme ça, qu'ils ont voulu fortement la montagne et que... Et justement, ce n'était pas des initiés, comme pendant beaucoup d'années, on a quand même raconté donc quelque chose pour peu, mais qu'en fait, non, c'était pour tout le monde, et que du coup, c'était là que je voulais être, dans la continuité, sur les pas, en fait, de cet homme préhistorique qui est arrivé la première fois et qui a dû être absolument émerveillé par cette vallée des merveilles qui nous laisse comme ça à la bouche bée. À chaque fois, même d'année en année, à chaque fois qu'on y remonte, l'été pour la première fois. Voilà, merci.
Merci Nicoletta.
Merci beaucoup Nicoletta. Eh bien, on va faire à nouveau une petite pause musicale avec les paysages sonores de Joav Jarón.